La question qu'on me demande de traiter là aujourd'hui, hein, vous l'avez à l'écran, vous l'avez sous les yeux, peut-on concilier la croissance économique et le développement durable au sein de l'Union européenne et au niveau mondial? Bon. Comment interpréter cette question? Je serais tenté de dire, en fond, on se pose la question, je vais l'exprimer donc plus simplement, hein, de savoir si le développement durable est possible, après tout. Est-ce que le développement durable est possible? Est-ce que le développement durable est faisable? Et on nous dit, bon, dans deux espaces particuliers, l'Union européenne et au niveau mondial. Donc c'est la question que je vais essayer d'aborder avec vous, là, ce matin, dans une conférence qui va durer 45 minutes environ. Alors vous allez voir, il y a pas mal de diapos, il y en a plus que 45 d'ailleurs, c'est ce qui veut dire en gros une diapo par minute, mais je vais être amené à passer très vite sur certaines d'entre elles et m'attarder un peu plus sur d'autres. Alors pour situer les idées, je vais d'emblée indiquer, c'est sans doute un bon conseil que vous recommande vos professeurs, d'indiquer le plan de mon intervention. Alors, puisqu'on me demande de parler des Nations Unies, du niveau mondial et de l'Europe, hein, je vais commencer, mais je vais le faire assez brièvement, sur l'engagement des Nations Unies et de l'Europe en faveur du développement durable. Après, dans un deuxième temps, on essaiera de voir que, malgré cet engagement des Nations Unies et de l'Europe en faveur du développement durable, hein, le constat que l'on peut faire, c'est celui de la non-durabilité. Alors, soyez pas effrayés par ce terme, hein, non-durabilité, c'est tout simplement non-durabilité désigne le fait que nous n'avons pas un développement durable, ou que le développement serait non-durable. Alors, ayant fait le constat, on se posera la question, dans un troisième temps, des explications. Pourquoi y a-t-il un engagement d'un certain nombre d'institutions, l'Europe, les Nations Unies, on pourrait d'ailleurs prolonger les gouvernements nationaux. Pourquoi il y a des engagements en faveur du développement durable et que pour autant, eh bien, majoritairement, on peut faire le constat de l'absence de développement durable. Donc il y a bien des raisons, on va essayer de les mettre en évidence ici, hein, les explications à ce constat de la non-durabilité. Et puis finalement, ça sera le quatrième temps de l'intervention. Après avoir donné les explications de la non-durabilité, quelles solutions peut-on proposer? Vous verrez que je vais indiquer quatre voies possibles, hein, qui sont généralement avancées dans la littérature, suivant certaines prises de position, donc pour essayer de mieux assurer un développement durable à l'échelle européenne et surtout à l'échelle de la planète. Alors là, je vais passer vite, c'est presque mon introduction, en fait, hein, sur l'engagement des Nations Unies et de l'Europe en faveur du développement durable. Je crois savoir que, en tout cas, certains d'entre vous traitent du développement durable dans leur programme scolaire, hein, de sorte que je vais peut-être passer assez vite sur ce que j'appellerais les généralités, hein, quitte à y revenir, si ce n'est pas clair pour certains d'entre vous, pour dire, un, la notion de développement durable, elle apparaît au milieu des années 80, hein, dans le cadre de ce qu'on appelle le rapport Brundtland, 1987. C'est un rapport qui a été commandé par l'ONU, l'Organisation des Nations Unies, hein, et qui va annoncer, en fait, hein, la notion de développement durable. Le développement durable, c'est quoi? Alors, il y a une définition un peu officielle. Je vous la livre, même si elle est un peu compliquée en apparence. Hein. C'est un développement qui répond aux besoins du présent sans compromettre la capacité des générations futures à satisfaire les leurs. Bon. Alors, elle n'est pas forcément très accessible, cette définition. On a tendance à en donner une autre, qui est plus intelligible, qui est plus compréhensible. C'est de dire, bien, le développement durable, c'est un développement qui concilie, hein, qui essaye d'atteindre à la fois la croissance économique, la justice sociale, hein, et quand on parle de justice sociale, on fait référence à la, à la diminution de la pauvreté et à la diminution des inégalités entre individus et entre pays, donc la justice sociale, et puis troisièmement, la préservation de l'environnement. Les Nations Unies, on me demande de traiter du niveau global, donc les Nations Unies, l'ensemble des États de la planète, reconnus par l'Organisation des Nations Unies, ont adhéré à cette idée de développement durable. Là, je vais assez vite, je ne vais pas m'attarder sur les formes de cet engagement. Il y a eu un sommet de la Terre à Rio en 1992, dans le cadre duquel, effectivement, avec une certaine solennité, les États ont reconnu le principe du développement durable. Ils ont décidé aussi de mettre en œuvre ce que l'on appelle des agendas 21. Ce sont des programmes d'action en faveur du développement durable. Cette affirmation en faveur du développement durable, en 1992, elle a été réitérée, elle a été renouvelée 10 ans plus tard, lors d'un autre sommet, dont vous avez peut-être entendu parler, c'est pas si vieux que ça, ça date de 2002, à Johannesburg. Donc réaffirmation de l'attachement des Nations Unies en faveur du développement durable. Mais les Nations Unies, l'ONU, précise aussi que les actions en faveur du développement durable doivent s'exercer aussi au niveau national et local. L'Europe aussi souscrit, adhère à la notion de développement durable. Il y a de nombreuses manifestations de cet intérêt pour le développement durable. J'en retiens une ici, une des plus récentes, en 2006. Une stratégie en faveur du développement durable a été adoptée. Mais on pourrait reprendre aussi les grands traités européens. Le traité d'Amsterdam fait référence au développement durable, le traité de Lisbonne également. Il y a aussi une stratégie du développement durable. Alors vous voyez les thèmes qui sont mis en avant par l'Europe. Je me contente ici de les citer en reprenant la diapo. Le changement climatique et l'énergie propre. En me baladant tout à l'heure, je me suis rendu compte que c'était des thèmes que certains d'entre vous, en tout cas, ont abordé dans le cadre de leur cursus scolaire. Le transport durable, donc en particulier un transport qui limiterait les effets négatifs sur l'environnement, la consommation et la production durable, la conservation et la gestion des ressources naturelles, la santé publique, un point important également, l'inclusion sociale, les questions démographiques et migratoires. Quand on parle d'inclusion sociale, on fait référence à cette composante que j'évoquais précédemment de justice sociale. D'accord ? Idem avec le dernier point, la pauvreté dans le monde. Donc il y a un élan, c'est le terme que j'emploie ici, il y a un engagement qui peut paraître fort en faveur du développement durable, en tout cas il est fort dans les proclamations, dans les textes, en pratique c'est beaucoup moins évident, et malheureusement, si je puis dire, puisque dans le fond, tout le monde souhaite qu'il y ait du développement durable. Croissance économique, justice sociale et préservation de l'environnement, c'est idéal, d'une certaine manière. Mais l'évidence, c'est que le constat que l'on peut faire, c'est que, eh bien non, ce développement durable se diffuse, en définitive, se généralise très peu. Il y a quelques actions, il y a quelques initiatives, mais globalement, le constat que l'on peut faire, c'est celui de la non-durabilité, l'absence de développement durable. Donc c'est ma deuxième partie, le constat de la non-durabilité. Alors vous allez voir, je vais distinguer deux temps, puisque je vous ai dit que le développement durable, c'était croissance économique plus justice sociale plus préservation de l'environnement. On va voir que, en particulier, pour ce qui concerne l'environnement, eh bien, au contraire, on a une accentuation des problèmes environnementaux. Et par ailleurs, on a une poursuite aussi, ça sera le deuxième temps de cette deuxième partie, on a une poursuite aussi des inégalités, voire un renforcement des inégalités à l'échelle de la planète. L'accentuation des problèmes écologiques. Alors, je vais pas ici commenter l'ensemble des... Je suis pas sûr d'ailleurs que ceux qui sont au bout de la salle arrivent à voir... je ne vais pas commenter ici l'ensemble des éléments qui sont indiqués. Simplement, vous voyez, vous avez trois colonnes. L'une avec un feu vert, l'une avec un feu orange, la troisième avec un feu rouge. Bon, vous imaginez, je pense, ce que peuvent signifier ces trois colonnes. Feu vert, ça va relativement bien. feu orange, la situation relativement préoccupante et a tendance à s'aggraver. Feu rouge, ça va très mal. Ça va très mal et ça va de plus en plus mal. Simplement, vous constaterez comme moi qu'il y a plus de choses dans la troisième colonne, il y en avait aussi dans la colonne intermédiaire, et il y en a relativement peu dans la première. Si bien que l'on peut faire effectivement le constat que, globalement, les choses ont plutôt tendance à s'aggraver. Les problèmes ont plutôt tendance à s'accentuer. Et je vais donner ici quelques illustrations, passant parfois assez vite, pour ne pas y consacrer trop de temps. Le changement climatique. Le changement climatique, c'est l'un des gros problèmes. L'Europe, la France le reconnaissent comme le principal problème environnemental. Du fait de l'activité humaine, et du fait en particulier des émissions de gaz carbonique dans l'atmosphère, le climat est en train de changer. Bon, globalement, il y a une tendance à l'augmentation des températures. On pourrait se dire chic, hein, super, les températures augmentent, il va faire beau on pourra plus rapidement mettre les t-shirts et sortir aux terrasses des cafés. Bon, malheureusement, ça c'est une vue un peu trop idyllique des choses, et la réalité, elle est beaucoup plus inquiétante, parce que le changement climatique induit, du moins les spécialistes estiment que le changement climatique risque d'induire quantité de conséquences négatives. Alors lesquelles? Ben, par exemple, la fonte de la banquise, la fonte des glaciers, avec une élévation du niveau de la mer et des océans, et donc bien évidemment risque d'inondation des zones côtières. Comme semble indiquer ici l'image, risque de sécheresse accrue. Accroissement des phénomènes extrêmes. Phénomènes extrêmes, c'est quoi? C'est les tempêtes, les cyclones, etc. Augmentation à la fois de la fréquence, il y en a de plus en plus, et ça on le constate hein, déjà depuis le début des années 2000, et augmentation de l'intensité. Les événements en question font des ravages à chaque fois de plus en plus importants. Il y a d'autres conséquences sur lesquelles on pourra revenir, je ne m'y attarde pas là maintenant. La déforestation, deuxième problème généralement souligné. Sachez que chaque année, c'est à peu près l'équivalent de la surface de l'Angleterre en termes de forêt qui disparaît. J'ai fait un petit calcul pour ceux qui arrivent à se représenter ce que c'est qu'un stade de foot. Environ toutes les deux secondes, dites-vous que l'équivalent d'un terrain de foot disparaît en termes de déforestation. Toutes les deux secondes, un terrain de foot. C'est à peu près l'image que l'on peut donner. La baisse de ce que l'on appelle la biodiversité. Alors la biodiversité, c'est l'ensemble des espèces animales et végétales, qui en elle-même représente une grande richesse pour l'humanité. Il s'avère que cette diversité est en train de se réduire considérablement. Le nombre des espèces diminue. On estime que par rapport à un taux de disparition, un taux d'extinction naturelle, parce que les espèces apparaissent, elles vivent et elles finissent par disparaître au bout d'un certain temps. Mais par rapport à un taux d'extinction naturelle, le taux constaté actuellement est environ de 100 fois, certains vont même jusqu'à dire 1000 fois plus important. Donc cette disparition, elle n'est pas naturelle. Elle est liée à l'homme. Troisième gros problème. Quatrième problème, pénurie et qualité des eaux. La qualité des eaux, effectivement, fait problème. L'eau est polluée et en plus, elle manque. Et elle manque surtout dans certains territoires, dans certains continents, même vous pouvez le voir ici, puisque, je ne sais pas si la légende est très lisible ici, mais là où vous avez du vert, l'eau existe en abondance. Et plus on va vers le rouge, plus on constate un risque de pénurie, un risque de manque d'eau. Bon, vous voyez qu'il y a un continent qui est particulièrement vulnérable ici, c'est l'Afrique. Dans une certaine mesure, alors le Moyen-Orient également, lorsqu'on va vers l'Arabie, l'Irak, la Turquie, bon, et puis là, une partie de l'Asie également. une partie de l'Asie également. Bon, c'est un problème moins criant pour l'Europe et les Amériques. Autre problème, les pollutions atmosphériques urbaines. Bon, je me contente de le mentionner. Problème aussi de la gestion et du transport des déchets dangereux. Et puis, dernier problème généralement identifié, il y en a évidemment d'autres, hein, mais on est obligé de faire une sélection, la présence de plus en plus importante de substances chimiques dans l'environnement et dans les produits, dans ce que vous mangez également. Voilà. Ce qui constitue aussi un problème important et de plus en plus préoccupant. Alors, je m'oblige à me lever pour faire un petit commentaire. Vous avez ici l'évolution de 1980 à 2005 d'un certain nombre d'indicateurs, la consommation de pétrole, le gaz naturel, le charbon, la combustion de CO2, c'est le gaz carbonique, hein, pour ceux qui l'ignoraient, et puis le PIB mondial. Le PIB mondial, c'est la totalité de la production mondiale. Bon, vous voyez que cette production mondiale, elle augmente. Le problème, c'est que parallèlement à cette augmentation de la production mondiale, eh bien, la consommation de pétrole, la consommation de gaz naturel, la consommation de charbon et le niveau d'émission de CO2 augmentent aussi. Alors, ils augmentent moins que le PIB, mais ils augmentent quand même. Hein, alors, les économistes utilisent un terme, ils parlent de découplage. L'idéal serait d'avoir un découplage, c'est-à-dire que qu'il y ait croissance économique, mais qu'il n'y ait pas pour autant, par exemple, des émissions de gaz carbonique en augmentation. En fait, si les émissions augmentent moins que la production au total, mais augmentent quand même. Donc il n'y a pas de découplage. Alors, si je rentre dans les détails, je dirais qu'il y a découplage relatif parce que ça augmente moins que la production, mais il n'y a pas de découplage absolu. Alors, je ne sais pas s'il y en a parmi vous qui sont fâchés avec les maths. Bon, c'est très simple, hein. C'est très simple. C'est ce qu'on appelle l'équation impact. Hein? En fait, on dit que l'impact environnemental, il est fonction de trois variables, la population, un niveau de ressources et les technologies. Alors, regardez, en fait, je ne sais pas si vous avez vu en maths ce qu'on appelle une équation tautologique, une identité toute simple. Vous voyez, ici j'ai I égale P, la population, que multiplie A divisé par P, que multiplie I divisé par A. Si vous faites le calcul rapide, vous allez dire, bah oui, on a bien I égale I. Mais l'intérêt de cette décomposition, c'est de mettre en évidence trois composantes. Donc, l'impact environnemental est fonction de la population, est fonction du revenu, et est fonction d'un indicateur, disons de technologie, en fait, c'est l'impact par unité de revenu. Bon. Et puis on peut transposer au niveau des taux. Alors pourquoi je fais ça? Parce que ça va me permettre de décomposer la croissance des émissions de CO2. Et déjà, nous allons avoir des éléments d'explication sur les problèmes. En effet, entre 1990 et 2007, le taux de croissance du CO2, des émissions de CO2, est de 2%. Dites-vous que chaque année, le niveau de croissance, hein, en tout cas entre 1990 et 2007, c'est à peu près la même chose actuellement, ce niveau, il augmente de 2% chaque année. On est loin d'une diminution qui serait souhaitée pour limiter l'effet de serre de ces émissions de CO2, puisqu'elles augmentent ces émissions de CO2 de 2% par an. Et donc on peut faire, en reprenant ma décomposition d'à l'instant, de la diapo précédente, on peut voir que ces 2% d'augmentation, dans le fond, correspondent à 1,3, c'est la croissance de la population, 1,4, c'est la croissance du revenu, tout cela au niveau mondial, moins 0,7, c'est la variation de l'émission de carbone par unité de revenu. 1,3 plus 1,4, 2,7 moins 1,7, on retombe bien sur mon 2% de croissance, mais là, vous avez la possibilité de l'expliquer par ces trois composantes. Alors, je continue sur le constat de la non-durabilité. On a vu les problèmes environnementaux, mais le volet social, lui aussi, fait problème. Alors là, vous avez un dessin de T-News qui, vous voyez, la planète se réchauffe, mais pas pour tout le monde, nous dit ce brave monsieur qui, manifestement, subit les rigueurs de l'hiver. Ici, c'est un tableau qui nous indique le nombre de pauvres au niveau mondial. Hein? Alors, est considéré comme pauvre, suivant en l'occurrence c'est la Banque mondiale, c'est le critère généralement retenu, c'est le nombre de... Donc, est pauvre quelqu'un qui vit avec moins de 1 dollar par jour. Pas beaucoup 1 dollar, hein, ça fait 0,7 euros par jour. Bon, alors vous voyez que ce nombre diminue, hein, puisqu'on passe en 1981 d'un milliard 5 personnes à 879 millions en 2005. Bon, on pourrait dire chic, le nombre de pauvres diminue. Sauf que si vous considérez eh bien, le nombre de personnes gagnant, vivant avec moins de 2,5 $, ce qui n'est pas énorme non plus, évidemment, 2,5 $, ben là, vous avez une augmentation. On est passé de 2,7 milliards à 3,1 milliards. Et les choses auraient tendance à s'aggraver du fait de l'augmentation de la population et du fait aussi de certains comportements. Là, par exemple, vous avez quelqu'un qui dit « Excusez-moi, j'ai besoin de ça », dit-il au petit Africain souffrant de la faim. « J'ai besoin de ça, hein, c'est un épi de blé, pour faire avancer ma voiture. » On fait effectivement référence ici aux agrocarburants qui, évidemment, créent un problème d'attribution de ressources. Hein, plutôt que de les destiner à l'alimentation, on les utilise de manière énergétique. Donc c'est un des facteurs qui, malheureusement, aurait tendance à accroître le problème. Les inégalités, alors, ça dépend, je vais peut-être passer directement à cette évolution-là. Là, nous avons l'évolution des inégalités globales sur longue période. Là, vous voyez en fait que quand on part de 1820 jusqu'à aujourd'hui, les inégalités, elles ont plutôt tendance, enfin, elles s'accroissent, les inégalités au niveau mondial. Alors c'est vrai que quand on arrive dans les années 90, on pourrait dire que c'est un effet du développement durable, ça, bon, en réalité, bon, on a l'impression qu'on stagne, mais à un niveau très élevé, à un niveau d'inégalité très élevé. Les disparités de ressources sont bien plus importantes aujourd'hui qu'elles ne pouvaient l'être au 19e siècle, contrairement à l'idée que l'on peut s'en faire. Bon, là j'ai peut-être un peu peur que ça soit trop long à commenter, donc je vais passer, quitte à revenir éventuellement après. Alors, quelles explications peut-on donner de cette faible diffusion du développement durable? On vient de voir que, du point de vue environnemental, les problèmes avaient plutôt tendance à s'accentuer. On a vu que du point de vue social, hein, du point de vue de l'objectif de justice sociale, on était loin d'atteindre l'objectif en question, donc on peut se poser la question, mais pourquoi? Pourquoi a-t-on tant de difficultés à ainsi généraliser, à permettre l'essor, hein, si je puis dire, du développement durable? Alors, quelles explications? C'est ma troisième partie. Alors, j'ai repris un rapport qui a été proposé par le CES, c'est le Conseil économique et social, c'est l'une des instances des Nations Unies, c'est pas exactement l'Organisation des Nations Unies, c'est le Conseil économique et social des Nations Unies, en 2002, en préalable au sommet de Johannesburg. Le sommet de Johannesburg avait pour objectif de faire le bilan. Hein, Rio s'était tenu en 1992, avait conduit à un certain nombre d'orientations, un certain nombre d'actions. Il s'agissait 10 ans après de faire le bilan de ces actions. Et le constat qui domine, je l'ai fait là précédemment, hein, c'est que la mise en pratique laisse à désirer. La mise en pratique fait problème. Et là, les raisons qui sont données par le CES des Nations Unies sont les suivantes. On nous dit, les politiques et les programmes n'ont généralement pas atteint le niveau d'intégration requis. Qu'est-ce qu'on veut dire par là? Bien, on veut dire que, alors que le développement durable, c'est concilier un certain nombre d'objectifs, eh bien, les politiques ne parviennent pas à cette conciliation, n'assurent pas cette intégration. Les modes de consommation et de production incompatibles avec le développement durable n'ont pas fondamentalement évolué depuis 1992. La manière dont on consomme, hein, sur le plan alimentaire, du point de vue des transports, du point de vue de l'habillement, etc., hein, les modes de consommation n'ont pas fondamentalement changé. Les modes de production non plus. Il y a beaucoup d'exceptions, évidemment. Il y a des entreprises qui parviennent à réaliser des économies d'énergie, qui réduisent leur consommation d'eau, qui changent de technologie, passent à des technologies propres, moins polluantes, ou sobres, qui consomment moins d'énergie. Bon. Mais globalement, quand même, hein, la tendance principale, c'est que les modes de production n'ont pas fondamentalement changé. Même constat du point de vue des politiques dans le domaine des finances et des investissements de la technologie. Hein, variables manifestement concordent très peu, trop rarement, avec les objectifs en termes de développement durable. Et enfin, quatrième raison invoquée, les ressources financières font largement défaut. Les ressources financières manquent pour mettre en œuvre les politiques de développement durable. Bon, ça, ce sont les raisons qui sont mises en avant par les Nations Unies. Alors, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais moi, je trouve ça un peu insatisfaisant. Parce qu'on pourrait se dire, bon, d'accord, mais pourquoi les modes de consommation n'ont pas évolué? Pourquoi les modes de production n'ont pas évolué? Pourquoi les investissements ne sont pas, comme on pourrait le souhaiter, plus en phase avec le développement durable? Dans le fond, on a là une explication partielle. Hein, qui ne nous empêche pas, qui, au contraire, je pense qu'au-delà de ces éléments d'explication, on se doit d'aller vers des modes d'explication beaucoup plus fondamentaux. Alors, c'est ce que j'ai essayé de faire ici. Vers des explications, donc, j'ai écrit ici, d'ordre structurel. Ce qui est en cause, c'est la structure du système économique. Et puis je pose une question, est-ce que ça ne serait pas les caractéristiques du capitalisme? Alors, si le terme capitalisme vous gêne un peu, le système économique dominant, dirons-nous, est-ce que ce ne sont pas les caractéristiques du système économique dominant qui seraient elles-mêmes en cause? Alors, c'est la thèse que je vais essayer ici de défendre. Alors, premièrement, bon, ça semble du jargon d'économiste, ça, je vous prie de m'en excuser, mais vous allez voir, vous allez comprendre, je pense, la difficulté. La concurrence des capitaux, entre les différents capitaux, favorise ce que l'on appelle l'externalisation des coûts, hein, et des stratégies de non-coopération internationale. Alors, qu'est-ce que c'est que ce barbarisme ici? Vous voyez, pour illustrer ce que je veux dire, j'ai utilisé une image. On voit quelqu'un qui soulève un tapis et qui met la poussière sous le tapis pour la cacher, qui ne traite pas le problème, qui se concentre de l'évacuer. Bon. Quand une entreprise pollue, hein, et qu'elle ne cherche pas à améliorer son mode de production, pourquoi elle ne cherche pas à améliorer son mode de production? Parce qu'elle pense que ça va lui coûter cher. Pas toujours le cas d'ailleurs, mais elle pense que ça va lui coûter cher, et donc du coup, pour ne pas supporter des coûts excessifs, dans le cadre d'un système de concurrence qui, en plus, est international, l'entreprise préfère éviter ce type de coût. Donc la pollution, elle existe, elle ne sera pas traitée. Bon, alors, apparemment, elle est cachée sous le tapis, sauf qu'elle va, malheureusement, créer des victimes. Il y a des personnes qui vont subir la pollution. Ce qu'on appelle en économie les coûts cachés ne sont pas cachés pour tout le monde, ils finissent un jour par apparaître. Alors ça va se traduire par des problèmes de santé, des bronchites chroniques, plus généralement des affections des voies respiratoires supérieures. Quand on émet du plomb, ça provoque des plombémies, du saturnisme, etc. Bon. De la même manière, cette concurrence entre les capitaux, ce que j'appelle les capitaux, cette concurrence entre les entreprises, rend difficile aussi la coopération au niveau international. Pourquoi ? Parce que imaginez, un pays décide seul de mettre en place une politique en faveur du développement durable. Cette politique, quoi qu'on en dise, elle aura un coût. Eh bien, la position du pays par rapport à la concurrence internationale, hein, va se dégrader. Et donc, ce n'est pas incitatif à la mise en œuvre des politiques en question. Dans le fond, ce qu'il faudrait, c'est qu'à un moment donné, tout le monde, tous les pays, disent, ben voilà, on va faire ensemble telle politique. Bon. Et ça, un autre problème auquel on est confronté, c'est ce qu'on appelle l'absence de gouvernance. Il n'y a pas de gouvernement mondial, ça n'existe pas. Les Nations Unies n'ont pas un rôle de gouvernement. Ce sont les États qui dominent. Et donc l'État, compte tenu de la concurrence des entreprises ne sont pas incitées à mettre en œuvre les stratégies en faveur de l'environnement et plus largement en faveur du développement durable. Deuxième élément d'explication, la rentabilisation des capitaux ne correspond pas forcément à la couverture des besoins. Alors là aussi j'ai repris un petit dessin humoristique, grâce à l'humour on fait parfois avancer les choses. Vous voyez des épis de blé qui discutent entre eux, il y en a un qui dit « Avant les hommes nous faisaient pousser pour faire du pain, aujourd'hui des dividendes ». Bon, ça, ça explique très très bien ce que je vous dire ici. Alors que le développement durable, c'est dans la définition même du développement durable, insiste sur la notion de besoin. Le développement durable vise la couverture des besoins, et en commençant par les besoins les plus essentiels. L'alimentation, l'accès à l'eau, l'accès à l'énergie, l'accès aux soins. Bon. Mais en réalité, il n'y a pas de raison, du point de vue de notre système économique, à ce que ça soit ce type de besoins-là qui soient les mieux couverts, les mieux traités et les plus rapidement traités. Pourquoi ? Parce que ce ne sont pas forcément les besoins qui conduisent au maximum de rentabilité. À la limite, enfin c'est pas à la limite d'ailleurs, ce que recherchent les entreprises, c'est des possibilités de rentabilité, des possibilités de ce qu'on appelle aussi de solvabilité, c'est-à-dire la possibilité de bénéficier de revenus en lien avec leur vente. Même s'il y a des besoins bien plus essentiels, bien plus importants, ils passeront après. Alors il ne s'agit pas de dire ici, attention, je ne suis pas en train de dire, oui, tous des pourris, les entreprises, des capitalistes, c'est des pourris, etc. C'est pas la question. C'est pas la question du tout. C'est que le système économique qui est le nôtre est fondé sur un certain nombre de caractéristiques qui conduisent à privilégier la rentabilité et non pas la couverture des besoins. Je n'ai pas du tout un discours moral en disant ça. Simplement, je reconnais la caractéristique de notre système économique. Je suis dans les temps, là. Oui. Ça va ? Troisième type d'explication. Troisième élément d'explication. Le temps économique n'est pas le temps écologique. Ça paraît aller de soi, et ça, c'est... Ça a une quantité d'incidences extrêmement importantes. Vous voyez là aussi un groupe de traders là qui s'affairent sans doute sur une place boursière et ça téléphone, ça c'est trépidant, ça va vite, etc. Ces gens-là sont dans le court terme. Ils sont même dans le très court terme. Quand on sait que grâce aux technologies disponibles, on peut faire une transaction en quelques secondes entre l'Australie et les États-Unis, en tout point de la planète. Il est clair que le monde s'accélère, et en particulier la vie économique. Et ces individus-là, comme les entreprises, sont très attachés au court terme. À la limite, ils ne savent même pas ce que c'est que le long terme. Bon. Or, un chêne qui pousse, une forêt qui grandit, elle ne le fait pas en une semaine, elle ne le fait pas en un mois, qui est une semaine, un mois, qui est l'horizon temporel de mes agents économiques ici. La forêt, elle, c'est sur des dizaines, des centaines. Le développement d'une espèce animale, je parlais de biodiversité tout à l'heure, c'est sur des milliers, voire des millions d'années. Ce ne sont pas les mêmes échelles de temps. Bon. Alors, ce n'est pas une différence philosophique ici que je fais. Ça a des conséquences très pratiques. Les 20 investissements ne vont pas viser des secteurs dans lesquels le trop de rendement sera satisfaisant, mais à très long terme. On s'en fiche de ça. Ce qu'on recherche, c'est du rendement immédiat. Et donc ça a des conséquences. Ça conduit, d'une certaine manière, à dévaloriser le futur, à accorder moins d'importance, moins de poids au futur. Donc vous voyez, ce sont trois caractéristiques fortes du système économique qui, à mon sens, vont à l'encontre d'une bonne diffusion du développement durable. Il y a des facteurs aggravants, des facteurs qui, me semble-t-il, ne sont pas liés en tant que tels au système économique, mais qui vont dans le sens d'une aggravation des problèmes. Alors, premier facteur aggravant, même si je ne le considère pas comme le plus important, limite à la diffusion de l'information sur les nouvelles technologies sobres et propres, sur les pratiques gagnantes. Alors, qu'est-ce que je veux dire par là? Et pourquoi j'estime que ce n'est pas encore une...
un problème trop important. Il y a des technologies propres, elles existent. Certaines entreprises en bénéficient. Il y a des technologies sobres, des technologies qui utilisent moins d'énergie. Bon. Et ça d'ailleurs c'est intéressant pour les entreprises, parce que si vous réduisez votre consommation d'énergie, vous réduisez aussi vos facteurs. Vos factures. Vous réduisez vos factures. De sorte que là, il y a un enjeu fort. C'est un enjeu de diffusion de l'information. Si toutes les entreprises étaient au courant de ce qui existait, il y aurait sans doute des progrès réalisés. Hein? À mon sens, ça n'explique pas tout, mais ça pourrait permettre des améliorations. Qu'est-ce que j'entends par pratique gagnante-gagnante, hein? Ça signifie gagnant sur le plan écologique, gagnant sur le plan économique. Réduisez, vous êtes une entreprise, vous réduisez votre consommation d'eau. Dès lors que j'ai indiqué tout à l'heure que c'était un enjeu extrêmement important que celui de la pénurie d'eau, eh bien c'est gagnant de deux points de vue. C'est gagnant sur le plan environnemental, on réduit la consommation d'eau, et donc on permet de préserver la ressource en eau. Et puis c'est gagnant du point de vue économique, parce qu'on réduit le coût lié à l'eau, la facture en eau, et donc ça c'est intéressant pour la rentabilité. Bon. Toutes les techniques ne fonctionnent pas de cette manière, il arrive un moment où il y a des coûts nets pour les entreprises, mais en tout cas là il y a des marges de progression importantes. Hein. Alors, vous voyez là le chat dit la chose suivante, c'est pas trop tôt, vous allez voir que c'est pas vraiment du gagnant-gagnant ça. Les types qui déboisent la forêt amazonienne acceptent enfin de faire un geste pour l'environnement. Donc, vous voyez, l'information progresse, mais le chat ajoute « Désormais, ils mettront de l'essence sans plomb dans leur tronçonneuse. » Bon, ça, c'est moins réjouissant. Deuxième élément aggravant, l'effet de taille. Alors, j'ai parlé de la population tout à l'heure. Hein, bon, déjà, l'augmentation de la population va jouer. Incontestablement, on prétend le contraire, mais non, l'augmentation de la population évidemment influe sur les impacts environnementaux. Et c'est surtout ça que je veux mettre en évidence ici, hein, l'effet de la population influe d'autant plus que les pays en question sont touchés, tant mieux pour eux, hein, par la croissance économique. Je veux dire par là que tant que la croissance économique touchait des pays émergents comme Taïwan, Singapour, donc de quelques millions d'habitants, les impacts au niveau mondial, d'ailleurs qu'ils soient économiques ou environnementaux, étaient relativement faibles. Mais quand c'est la Chine, hein, 1,3 milliard, l'Inde qui dépasse le milliard, hein, à eux deux, vous voyez déjà, c'est le tiers de, et même un peu plus de la population mondiale. Bon. Donc évidemment, là, l'impact, hein, sur les variables environnementales est fort. Donc cet effet de taille ne doit pas être négligé. Et puis enfin, ce que les économistes appellent l'effet rebond. L'effet rebond. Bon. Alors vous voyez, l'expliciter ici, la baisse du prix du bien du fait d'une baisse de l'intensité énergétique se traduit par une hausse de la demande du bien et d'autres biens. Je m'explique. Hein. Vous avez une voiture qui consomme une certaine quantité d'essence, vous changez pour une voiture qui consomme moins. Du coup, votre budget essence est moindre, si je raisonne à prix constant de l'essence, ce qui n'est pas le cas actuellement, mais si je raisonne à prix constant de l'essence. Votre budget essence est moindre. Qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez conduire plus. Vous allez consommer plus. C'est ce qu'on appelle l'effet rebond. D'accord? Donc ça, c'est la consommation du même bien. Ou alors d'autres biens. Du fait, vous changez de chaudière. Hein, vous utilisez une chaudière à condensation. Bon, votre facture de gaz diminue. Vous avez un effet revenu dont vous bénéficiez. Qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez acheter des biens qui ont un impact environnemental. C'est ça l'effet rebond. C'est-à-dire qu'il y a un risque effectivement un rebond parce qu'on croit réduire l'impact environnemental, mais en réalité, en fin de course, l'impact environnemental, il est peut-être pas aussi important, mais il augmente d'une certaine manière. C'est ce qu'on appelle l'effet rebond. J'en arrive aux solutions. J'espère que parfait. Si je me reste 5 minutes, c'est ce qu'il me faut pour terminer. Les solutions proposées. Alors, je ne vais pas ici énumérer, dire tout ce dont on peut bénéficier, tel type d'économie d'énergie, telle technologie qui va permettre de polluer moins, etc. Je ne vais pas faire ça. Je vais plutôt vous proposer, dans le fond, 4 grands modèles qui sont généralement proposés pour faire face aux problèmes environnementaux et sociaux et pour mieux permettre un développement durable. Il y a d'abord ce qu'on appelle la croissance verte. Bon. Alors la croissance verte ne conduit pas à modifier de façon importante le système économique. Grosso modo, on maintient le système économique tel qu'il est, avec ses caractéristiques négatives que j'ai mentionnées précédemment. Suivant les auteurs, cette croissance verte, je l'indique ici, est plus ou moins mêlée de considérations sociales. Et en bas, vous avez 2 couvertures d'ouvrages. Ce sont des auteurs qui cherchent à promouvoir ce type d'approche. On a l'ouvrage Facteur 4, ou l'ouvrage qui vient de sortir, là, des lois Laurent, social-écologie. Alors, caractéristique de ce premier modèle, de ce premier type de solution, favoriser au mieux le progrès technique. Ça, ce sont généralement des approches qui insistent très fortement sur le progrès technique, le progrès technologique. Deuxième caractéristique, les investissements écologiques. Bon, par exemple, dans la région, ou aussi dans d'autres régions françaises, on vous parle de trames vertes et bleues, de corridors écologiques. Bon, cela fait partie de ce type d'approche. Et puis aussi, des incitations économiques favorables pour limiter les pollutions et les prélèvements de ressources. Des taxes, par exemple, des subventions. Hein, cela ne touche pas fondamentalement au système économique, cela permet de l'améliorer. Certains estiment que cette voie-là est insuffisante et proposent des mesures beaucoup plus radicales. Par exemple, l'ouvrage de l'impossible capitalisme vert. Donc, quand on dit l'impossible capitalisme vert, hein, c'est très clairement une critique du modèle que je viens d'énoncer. Le modèle de croissance verte. Certains auteurs estiment que, précisément, les caractéristiques du système économique prendront toujours le dessus, et c'est insuffisant pour mettre en œuvre un véritable développement durable. Donc, du coup, ce qui est préconisé, c'est une rupture radicale, une rupture fondamentale avec le capitalisme, et on parle alors d'altermondialisme, d'une autre mondialisation. Hein. Quelques caractéristiques de ce deuxième modèle. C'est un modèle qui s'appuie de façon importante sur ce que l'on appelle la société civile mondiale, c'est-à-dire non pas les États, qui ont plutôt un rôle subalterne dans cette approche, mais plutôt des associations, des ONG, hein, des organismes non gouvernementaux. Il y a sans doute une part d'utopie dans ce type d'approche, c'est incontestable, mais en tout cas, cette solution-là proposée, elle existe et j'en rends compte ici. Donc l'idée, c'est d'aller vers un nouvel ordre économique mondial avec des nouvelles normes, des nouvelles lois, par exemple des minimums concernant les revenus qui seraient partagés par tous les pays et les normes valent aussi pour l'environnement. Troisième possibilité proposée, le retour vers le territoire avec éventuellement le choix de mesures protectionnistes. Et bien représentatif de cette vision des choses, le petit bouquin Ne soyons pas des écologistes bénés pour un protectionnisme écologique et social d'Aurélien Bernet. Il y a toute une série d'expérimentations qui sont menées dans le développement durable qui se traduisent de fait par un retour vers le local, vers le territorial. Hein, ce qu'on appelle les circuits courts en agriculture. Hein, plutôt que d'avoir des fraises qui viennent d'Espagne, puis au passage d'ailleurs qui sont très fortement consommatrices de produits phytosanitaires, on va aller chercher les fraises à Falampin, qui sont, on l'espère en tout cas, produites de façon beaucoup plus écologique. Hein, donc on cherche à promouvoir des circuits courts, limiter les distances entre le producteur et le consommateur. Un autre exemple, c'est ce qu'on appelle l'écologie industrielle. Vous avez plusieurs entreprises qui sont à proximité les unes des autres, et elles utilisent, certaines utilisent comme produit les déchets des autres. Bon. Donc il y a des formes de d'économie territoriale ou de retour, puisqu'avant c'était un mode de production qui prévalait, qui existait. Hein, donc c'est des formes de retour vers le territoire. Et cela peut s'accompagner de mesures protectionnistes, d'ajustement aux frontières, hein, comme on les appelle. J'évoquais tout à l'heure le problème lié à l'engagement de politiques qui n'étaient pas concertées. Eh bien, une façon de mettre en œuvre malgré tout les politiques en question, c'est d'introduire des formes de barrières à l'échange, des formes d'ajustement aux frontières. Tout simplement, qu'est-ce que ça pourrait être? Si vous introduisez une taxe au niveau de l'économie nationale, ben, ce serait que les produits importés seraient également taxés. Bon. Alors, aux ultralibéraux qui montent sur leurs grands chevaux lorsqu'on annonce ça, ça n'a rien de révolutionnaire après tout, hein, puisque la TVA elle fonctionne de cette manière. Hein. Les produits sont détaxés à l'exportation et sont taxés à l'importation. Bon, donc ce serait d'une certaine manière une extension de forme de TVA à des taxations plus environnementales. Et puis je termine par la dernière approche possible que j'ai intitulée « Par-delà la croissance économique ». Et là, parmi les lectures utiles que l'on peut faire pour illustrer cette approche, vous avez « L'adieu à la croissance » de mon collègue et ami Jean Galeret, ou alors de Tim Jackson, « Prospérité sans croissance ». Ce sont des approches qui ne cherchent plus véritablement à concilier la croissance économique, l'environnement et le social, parce que, d'une certaine manière, elles cherchent à aller, parfois on parle, c'est plus provocateur, de décroissance. On parle de décroissance. Gadret préfère, je suis assez d'accord avec lui, de parler d'au-delà de la croissance économique. Hein, viser autre chose, viser la qualité de vie. Hein. C'est plus le mieux-être que le bien avoir. Hein. Alors du coup, cela conduit à des formes de services publics associés à des droits universels, à des formes de redistribution solidaire entre les individus, hein, et à niveau de production constant. Hein. Voire, hein, à la limite, des formes de baisse de productivité dans les services pour créer de l'emploi. Effectivement, hein, toutes choses égales par ailleurs, quand on améliore la productivité à quantité identique, on supprime des emplois, c'est bien connu. Gadret, il faut faire l'inverse. C'est-à-dire que on maintient la croissance au même niveau, mais on crée des emplois, de sorte que la productivité, en fait, elle baisse. Bon, ça va à l'encontre d'un dogme en économie, parce que généralement on nous dit « Ah, il faut augmenter la productivité, il faut augmenter la productivité. Hein » C'est bien quand la productivité augmente, quand elle génère des ressources, hein, mais quand l'augmentation de la productivité se traduit par une hausse du chômage, évidemment, c'est moins souhaitable. Donc là, on a une lecture complètement différente, on a une approche complètement différente qui va, vous voyez, jusqu'à la baisse de la productivité dans certains services, et ce, pour créer de l'emploi. Alors bien sûr, dans le fond, ça sera ma conclusion. Si on raisonne d'un point de vue, disons, théorique, ces différents modèles, ces quatre modèles que j'ai indiqués, s'opposent incontestablement. Mais je pense qu'en pratique, si on a une approche un peu plus pragmatique des choses, rien n'empêche de jouer sur les différents modèles, de faire des emprunts à l'un et à l'autre. Ça veut dire, par exemple, après tout, s'il y a des progrès techniques satisfaisants du point de vue de l'environnement, les adopter. S'il faut utiliser des formes d'incitation économique, utilisons-les, les taxes, les quotas, les subventions. Hein. Mais, par exemple, chercher à instaurer des normes au niveau international, comme nous invitent à faire certains auteurs radicaux. Peut-être, pourquoi pas, aller à l'encontre du dogme libéral sur le libre-échange et introduire des formes de protection. Donc rien n'empêche, selon moi, d'envisager des formes relativement intermédiaires entre ces différents modèles que j'ai indiqués. Voilà, j'ai terminé. Je vous remercie de votre attention. Merci.